Mai 68, mai 2008, histoire ordinaire d'un printemps en Sarthe. Attention, la radio raconte aujourd'hui l'université, les étudiants, la jeunesse, les nouveaux courants politiques. Et avec nous en studio ici, Marie-Claude Rousseau. Et puis un peu plus loin au téléphone, Michel Magloff et Philippe Guittet. Et puis un quatrième invité qui va sans doute nous rejoindre en cours de route. Bonjour d'abord à vous et merci d'accompagner cette émission dans laquelle nous aurons également le concours de Michel Rosier, donc historien, et Franck Pohu qui a participé à la mise en place également de cette émission. Alors, si vous le voulez bien, Marie-Claude Rousseau, nous commencerons par nos amis actuellement au téléphone, par Philippe Guittet et Michel Magloff, avec une question très simple. Qui étiez-vous en 68 et que faisiez-vous? Michel Magloff.
Eh bien, moi j'étais encore étudiant en 68. Je venais de la faculté de Rennes et donc je me suis retrouvé au Mans avec un certain nombre d'autres camarades qui étaient comme moi étudiants, mais plutôt à Paris, plutôt à Nanterre. Et le premier noyau de ce qu'on a appelé les maoïstes, on en parlera plus tard, oui. Il est un peu né de ces étudiants, et également, enfin c'était un peu les mêmes aussi, des membres des comités Vietnam, car on était en pleine guerre du Vietnam, et on manifestait contre l'impérialisme américain, et notamment en ce qui me concerne moi, à l'UNEF à Rennes, on avait fait de grandes manifestations. Le Mans à côté était un peu une petite ville universitaire à l'époque, hein.
Philippe Guittet, le comité Vietnam, ça vous dit quelque chose aussi?
Oui, alors j'étais au comité Vietnam national, mais j'étais, en fait, à l'époque, j'étais membre de la Convention des institutions républicaines, voyez-vous, le parti de François Mitterrand. J'étais jeune étudiant arrivant au Mans, et j'étais... l'UNEF n'existait pas, enfin l'UNEF existait, mais n'était pas la force principale au Mans, puisqu'il y avait une assemblée, une AGEM qui était en fait tenue de manière un peu corporatiste. Mais il y avait une UNEF, j'étais président de l'UNEF, et j'étais étudiant en première année à l'université de Sciences Éco, d'ailleurs les locaux se situaient à l'époque sur le terrain du lycée Montesquieu.
Alors, nous en reparlerons justement des lieux. Et vous, Marie-Claude Rousseau, vous étiez où en mai 68?
Alors, au début de mai 68, moi j'étais à Paris, parce que j'étais étudiante à Nanterre depuis 1966. Et donc, j'avais abandonné la politique en 65 et j'ai repris les manifestations en 68 à Paris, donc puis la mobilisation à Nanterre évidemment avant. Et puis j'ai décidé de venir voir au Mans ce qui se passait et je suis arrivée à la GEM où j'ai rencontré un courant politique qui a tout de suite correspondu à ce que je pensais plus ou moins intuitivement et c'était la JCR.
Donc les courants trotskistes.
Voilà.
Et je vais revenir vers vous. Donc Michel Magloff, aujourd'hui, que faites-vous?
Normalement, j'ai l'âge d'être retraité, mais puisque j'ai 64 ans, mais je travaille encore. On va dire que je suis un petit commerçant.
Dans quel domaine?
Dans le domaine du tourisme, avec la Chine.
Voilà, donc il y a quand même effectivement une filiation quelque part.
Ah, il y a une filiation, oui, tout à fait. Oui,
bien, nous y reviendrons. Philippe Guittet, vous-même, vous occupez des fonctions syndicales importantes.
Oui, je suis secrétaire général du principal syndicat des personnels de direction d'éducation nationale, c'est-à-dire les proviseurs, les principaux et leurs adjoints.
Et vous exercez actuellement dans la région parisienne? Vous avez exercé sur la
Paris Sarthe? À Paris même, je suis proviseur à Paris dans le 20e.
Vous avez exercé sur la Sarthe aussi?
J'ai été proviseur adjoint au lycée Montesquieu et j'ai suivi la construction et j'ai suivi le début du lycée d'Allonne.
Marie-Claude Rousseau, aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, je suis une heureuse retraitée, j'ai 62 ans. Et après une vie professionnelle un peu agitée, j'ai terminé finalement professeur des écoles, donc il y a 2 ans, dans la Sarthe.
Dans la Sarthe.
Après
Alors,
avoir fait...
J'aimerais que l'on commence par vraiment dire ce qu'était l'université du Maine en 68. Philippe Guittet, vous qui étiez donc à l'époque un poste de responsabilité donc à l'UNEF, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'était que l'université du Mans en 68?
C'était une petite université, mais une partie était déjà sur le site de Vorouzé, mais une autre partie, c'est-à-dire la fac de droit et de sciences éco, était dans le centre du Mans, puisqu'il était sur le site du lycée Montesquieu. Et l'assemblée, la GEM, qui était l'AG des étudiants, se situait rue Pasteur, dans le centre du Mans, pas loin de la médiathèque du Mans.
Alors, pour qu'on comprenne bien, la GEM, c'est une organisation corporatiste, en fait.
Association Générale des étudiants du Mans.
Association Générale des étudiants du Mans, comme il y en avait dans la plupart des villes universitaires.
Voilà, il y avait les élections, et bon, ils étaient majoritaires. L'UNEF n'était pas majoritaire sur le Mans à l'époque, hein.
Alors, ça, c'était l'université à cette époque-là. Il faut rappeler aussi qu'au niveau des autorités, on n'était pas directement reliés, organisés de la même façon territorialement. Michel Rosier.
Oui, à l'époque, la faculté, les facultés du Mans dépendent de Caen.
Oui.
Et c'est un des débats, d'ailleurs, de l'époque.
Le débat, pourquoi ?
Le débat pour avoir une autonomie réelle au Mans et sans doute déjà aspirer à devenir une université autonome. Il y a un débat pendant les événements entre les enseignants et les élèves sur ce sujet.
Alors, donc nous sommes en 67. Bien, on a François Pleck qui nous rejoint, qu'on va laisser s'installer avec nous ici dans le studio. Heureux de vous recevoir. François Pleck, on va partir à chaud tout de suite. En 68, qui étiez-vous et que faisiez-vous ?
J'étais assistant à l'université, assistant de chimie. Donc, j'étais à la fac déjà. J'enseignais depuis beaucoup d'années.
Et vous aviez des responsabilités syndicales ?
C'est ça, oui, j'étais secrétaire du SNESUP à l'époque.
Et vous avez donc vécu 68 en tant que responsable syndical sur la Sarthe. On peut rappeler pour l'auditeur qu'au niveau national, le SNESUP, ça nous ramène au nom d'Alain Gesmard, pour les gens les plus connus, et que l'UNEF dont on parle pour ici oui. Philippe Guittet, c'était Jacques Sauvageau, donc au niveau national. Alors, à l'université, donc à cette époque, est-ce qu'il y avait déjà des problèmes en 67 qui s'étaient présentés, qui avaient secoué un peu les étudiants ? Des questions sociales, je crois, principalement, Philippe Guittet.
Oui, bah, il y avait la question des cités scolaires qui se posaient, il y avait la question des bourses qui étaient mises en avant. En plus, le ministre Perfit s'était déplacé sur le site du Mans. Donc, il y avait quand même une agitation réelle. En particulier, bon, l'UNEF était bien représenté sur la fac de Vaurouzet avec la fac de sciences et puis en partie dans les autres universités en lettres et un tout petit peu en droit sciences éco.
Justement, puisqu'on parle de 68, vous vous souvenez, François Pleck, janvier 68, la venue de Perfit ?
De Perfit, oui, ça nous avait remué un peu. Bon, en sachant que c'était quand même une petite université, hein, on avait peut-être un poids spécifique lié à notre création, à la création du CSU de 7 ans auparavant, mais qu'on n'avait pas le nombre d'étudiants qui nous permettait d'avoir le type d'action que pouvaient avoir d'autres universités. Et puis d'autre part, notre propos était aussi très lié à notre volonté d'autonomie par rapport à la fac de Caen à l'époque.
Voilà ce qui a été rappelé tout à l'heure par Michel Rosier. Je voudrais revenir sur les événements de janvier 68, cette venue de Perfit, parce que ça se situe au même moment où nationalement, enfin à Nanterre, il y a le coup de gueule entre Cohn-Bendit et Missoff. Et ici, il y a aussi un même mouvement de mécontentement par rapport à Perfit. Racontez-nous ce que font les étudiants le jour où Perfit vient. Qui va intervenir sur ce point ? Philippe Guittet ?
Oui, on l'a accueilli, lorsqu'il rentrait à l'université, on avait fait une sorte de haie de déshonneur puisque nous lui tournions le dos et il est passé dans ce bloc au milieu des deux bandes d'étudiants qui tournaient le dos au ministre Perfit. Oui, nous étions déjà au courant de ce qui se passait et puis partout il y avait un mouvement qui était... Bon, il faut savoir quand même que la société était très bloquée, donc je crois que tout ça, et Perfit exprimait beaucoup cette idée-là, ça avait été l'ancien ministre de l'Information, et c'était le nouveau ministre de l'Éducation nationale, et il avait quand même une place particulière et déjà bien connue.
Vous voulez dire par là que cette manifestation avait déjà un caractère très politique ?
Politique, syndicalo-politique, certainement, mais en effet, Perfit, c'était un ministre de l'Éducation dont on connaissait déjà les pratiques, hein, puisque je vous rappelle quand même que quelque temps auparavant, il avait accueilli sur la chaîne de télé, il présentait le nouveau présentateur de télévision. À l'époque, vous voyez, la société était quand même très bloquée, on ne peut pas imaginer ça aujourd'hui.
Marie-Claude Rousseau, on vient de parler de Nanterre.
Oui.
Vous connaissez bien Nanterre.
Oui, Nanterre, j'y étais donc. Et il faut bien se rendre compte que le mouvement étudiant du mois de mars, c'est pas du tout une chose étonnante. Les conditions d'études à Nanterre étaient insupportables, quoi. C'est-à-dire qu'on avait des amphis absolument bondés. On était obligé de s'asseoir dans l'escalier. Si on arrivait en retard, on rentrait pas dans le cours. Moi, je faisais du latin en amphi de 600 à 700 élèves. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien ce que ça peut signifier. Il y avait trop de monde partout. Puis Nanterre, il faut quand même bien dire que Nanterre, c'était une fac construite au bord des bidonvilles. Et que donc, quand on a un peu une conscience, on n'a pas besoin d'avoir une conscience politique, il suffit de regarder et on se dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas. On descendait à une station qui s'appelait La Folie.
Oui,
c'était un peu bon. Et puis après, c'était la boue, quoi. Hein. C'était le, bon. Et en fait, dans la fac, qui était soi-disant une nouvelle fac, une vitrine, etc., les conditions d'enseignement étaient désastreuses, quoi. Donc, il y avait quand même une agitation. Et puis alors, il y avait les pauvres étudiants qui étaient obligés de loger sur place. Donc, dans ce cadre-là, forcément, l'agitation que menaient Cohn-Bendit et l'UNEF de Nanterre avait un poids très important. Il y avait une réalité. C'était pas de la rigolade, quoi. Hein, c'était ancré dans la réalité de vie des étudiants. Et en plus, comme Nanterre regroupait les étudiants qui venaient souvent de province, puisque c'était notre fac de destination, comme on dirait aujourd'hui une sorte de carte scolaire, c'était des étudiants qui n'étaient pas forcément habitués à la vie parisienne. Ceux qui ne pouvaient pas loger à la fac logeaient dans de très mauvaises conditions à Paris. Donc tout ça, c'était quand même... Il y avait un ferment social, enfin une situation sociale des étudiants qui poussait à la mobilisation.
Michel Magloff, vous étiez étudiant aussi donc, dans cette période.
Oui, mais j'étais à Rennes.
Voilà, vous étiez à Rennes. Alors justement, c'est intéressant, puisqu'on a Nanterre, on a Le Mans, la plus grande pratiquement, la plus une des plus petites, et Rennes donc, était déjà un gros centre universitaire.
Oui, ça, c'est un gros
ça se passait comment sur Rennes?
Écoutez, Rennes était d'ailleurs très très actif, et on avait un facteur qui, en tout cas pour mon compte personnel et pour la suite des événements, a joué un certain rôle, c'est que nous avions, depuis 1964, fin 60, la première délégation d'étudiants chinois qui avait été envoyée après la reconnaissance de la Chine par De Gaulle en 64. Ce qui fait que, bah évidemment, pour les gens qui étaient curieux, c'était notre cas, je parle surtout pour l'UNEF et les comités Vietnam, et puisqu'on faisait les manifs, et même les Chinois venaient avec nous dans les manifs contre l'impérialisme américain, on a commencé à avoir des échanges, des discussions, et de découvrir, parce que pour moi, tout ça était vraiment lointain. Hein. Moi, je viens, vous parliez tout à l'heure de l'AGEM, j'ai été vice-président de l'AGEM chargé des affaires culturelles, notamment... Il y a eu une époque où on a fait des grandes expositions au Théâtre du Mans, etc. Puis après, ça s'est gauchi et ça doit correspondre à peu près à la période dont parlait Marie-Claude tout à l'heure. Donc moi, je venais plutôt d'un univers culturel. J'avais été sensibilisé beaucoup par le cinéma. Il y avait eu l'interdiction du film de Rivette, La Religieuse. Puis après, les problèmes d'Henri Langlois à la Cinémathèque de Paris. Donc moi, j'avais surtout une origine culturelle et peut-être même un peu seulement... chrétienne. Et quand j'ai découvert un peu la Chine à travers ses étudiants chinois et tout, et la révolution culturelle, puisque la révolution culturelle a commencé en 1966, pour moi, ça a été l'émergence de quelque chose de tout à fait nouveau.
Alors, qu'est-ce qui se passe en fait au Mans entre janvier et mai? Je sais par exemple que en février, il y a une des grosses manifestations des comités Vietnam sur Paris. Est-ce qu'il y a la même chose par exemple sur Le Mans?
J'ai pas souvenir, il n'y a pas eu de grosses manifestations. Il y avait un comité Vietnam national qui existait. Moi, je sais que étant militant à l'époque dans une organisation de gauche et pas d'extrême gauche, j'étais quand même au comité Vietnam national, et c'est même ce qui a forcé un peu ma mobilisation à l'époque, parce que j'étais en désaccord total avec les positions de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste qui existait à l'époque. Et bon, il n'y a pas eu des manifestations massives, mais c'est vrai qu'il y avait déjà un comité Vietnam national, il y avait des mobilisations autour de cette question-là, et je crois que c'était un des modes de radicalisation les plus importants des étudiants de gauche et d'extrême gauche à l'époque.
Michel Rosier,
non, mais ce qu'il y a eu au Mans, excusez-moi d'intervenir, ce qu'il y a eu au Mans, qui est quand même très important, c'est qu'il y a eu des grandes manifestations de travailleurs, ouvriers, les ouvriers de chez Renault sur le boulevard des Morieux, novembre, si ma mémoire est bonne, et des manifestations contre les ordonnances de la sécurité sociale, et donc il y avait une agitation quand même de ce côté-là, d'ailleurs beaucoup plus que du côté des étudiants, pour les raisons que vous avez dit, mais du côté du monde du travail, il y avait eu les manifestations du boulevard des Morieux. Il se trouve que j'y étais pas pour X ou Y raison, parce que je faisais des films, c'était pas rien, hein. C'était pas une petite manifestation pacifique, il y avait les CRS qu'on chargeait et tout. Hein.
François Play, oui. Vous étiez à l'époque au Parti communiste.
Oui, 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 j'y étais.
Alors, vous pouvez nous évoquer aussi ces événements, ces mobilisations ouvrières.
Ce qui vient d'être dit est tout à fait le reflet de la réalité. Moi, j'ai souvenir vraiment d'un boulevard de Morieux enflammé à tous les sens du terme, moralement, et si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne, si ma mémoire visuelle est bonne, je dirais matériellement aussi.
Oui, jusqu'à la place de la République, il faut le rappeler, donc, et jusqu'à la préfecture, le 26 novembre particulièrement, le 26 octobre 67, c'est particulièrement violent. Je voudrais revenir...
J'étais place de la République aussi, d'ailleurs, à ce moment-là. Et je me souviens d'une volée de boulons contre les gardes mobiles à l'époque.
Exact.
qui a été très, très violente.
Oui, je voudrais revenir sur un point. C'est la protestation contre la guerre du Vietnam. Au Mans, elle est en charge. C'est le Parti communiste et le mouvement de la paix qui la prennent en charge. À l'époque, avant les événements. Et le 31 mars, par exemple, il y a une manif importante. Je crois qu'il y a 2500 personnes à la maison sociale, organisée par le mouvement de la paix et la Réopage présente. C'est le Parti communiste et le mouvement de la paix. Il y a Jarry, Combes, Manceau, Luby, etc.
Oui, parce qu'à l'époque, il y avait des organisations différentes sur la guerre du Vietnam. Oui. Il y avait le mouvement de la paix avec le Parti communiste qui intervenait, qui était. Il y avait le Comité Vietnam National avec l'extrême gauche essentiellement et d'autres militants, et les comités Vietnam de base, je crois, qui étaient animés essentiellement par les mouvements maoïstes à l'époque. Donc il y avait quand même déjà, disons, des analyses un peu différentes de la guerre du Vietnam.
Hein. Tout à fait vrai. On peut résumer ça, c'est comment on manifestait en disant paix au Vietnam. Et à Rennes, on manifestait en disant « FLN vaincra ».
Alors, on l'a bien mesuré, il y a deux éléments très très forts. La mobilisation ouvrière, c'est la tradition mancelle en fait, qui est très très forte. Le Vietnam qui mobilise la jeunesse, et ça c'est pas uniquement au Mans ni uniquement en France. Ouais. Et puis il y a les événements qui se déroulent sur Paris. Marie-Claude Rousseau, vous étiez sur Paris, vous êtes d'origine mancelle. Qu'est-ce qui fait que vous revenez à un moment vers le Mans?
C'est-à-dire qu'à Paris, on manifestait tous les jours, on faisait les barricades, tout ça, chacun avait son petit comité, on allait coller nos affiches. Nous, on était un groupe d'étudiants du Mans, d'un groupe de copains du Mans. Et donc, on s'était rassemblés dans un appartement, puis on rédigeait nos propres affiches, on allait les coller, tout ça. On n'a pas eu les mêmes chemins politiques après. Les uns sont devenus Mao, les autres trotskistes, tout ça, d'autres rien. Mais au bout d'un moment, les manifs parisiennes, c'était... bon, pour moi, les autres sont restés à Paris, mais pour moi, c'était un peu répétitif. J'avais l'impression qu'à Paris, on était très, très nombreux et qu'on... Je voyais pas bien quoi où ça allait. J'avais pas du tout suivi la question des organisations politiques et tout. Moi, j'en étais restée avec un peu ma sympathie pour le PC de mes années lycéennes. Et donc, je voyais pas bien clairement la vie. Et donc, je me suis dit, je vais aller voir au Mans ce qui se passe. Où là, je connais les gens, je vais retrouver mes copains, tout ça. Je vais voir ce qu'ils font. Et c'est comme ça que je suis arrivée au Mans. Et en fait, pour voir. Et en fait, je suis restée.
C'était un choix ou
c'est un choix comme ça quoi.
Personnel,
je suis venue et puis en fait j'ai occupé la GEM avec mes copains et après je suis restée. J'ai demandé un poste d'enseignante en Sarthe à la rentrée. Voilà.
Il faut faire parler Philippe Guittet et Michel Magloff de l'occupation de la GEM, qui est un grand moment des événements au Mans en 68.
Alors des deux points de vue, de ceux étaient censés garder les lieux et de ceux qui ont occupé. Alors Philippe Guittet.
Bah oui, on a occupé parce que d'abord on considérait que la GEM est une AGEM corpo et donc l'UNEF voulait occuper toute la place, je pense, à ce moment-là. Et puis on a occupé cette AGEM parce que ça c'était un lieu qui a permis ensuite d'ailleurs des lieux de débat très importants. Donc c'est vrai qu'on l'a occupé, je dis pas militairement, mais quasiment quasiment protégé quand même. Nous occupions les toits de la GEM, toujours prêts à attendre des interventions extérieures. Et c'était une garde permanente de la GEM, mais il y avait aussi ces débats très importants, les gens qui amenaient, je me souviens, les gens qui amenaient des produits pour qu'on puisse s'y ravitailler. Enfin bon, c'est quand même un excellent souvenir, un grand souvenir d'une période de débats multiples et importants.
Marie-Claude Rousseau, oui, acquiesce, oui.
Oui, tout à fait. C'était quand même, il y a quand même, on a vécu des grands moments parce que c'était un petit lieu, si on veut, par rapport à, évidemment,
C'était rue Pasteur au Mans.
C'était rue Pasteur, ouais. c'était pas la Sorbonne, mais ce qu'on vivait là, c'était comme les gens ont vécu ailleurs. Alors, c'est une occupation avec. Et les débats qui étaient vraiment. Et les gens venaient pour débattre, c'était un lieu de rendez-vous et on. Bon, je pense que c'était important, ça a été un ferment important au niveau du débat, quoi.
Et tout le monde y venait, hein.
Oui, tout le monde y venait.
Quand on dit tout le monde, ça veut dire quelle tendance politique? Et puis quand même personne, on a du mal à visionner comme ça, aidez-nous à voir.
Ben, il y avait aussi bien des gens de gauche, d'extrême gauche, qui venaient. Moi, je me souviens que le docteur Lelièvre était venu à des débats, qui était à l'époque au Parti communiste. Il y a eu d'autres intervenants de tout milieu. Il y avait même, je crois, des intervenants du parti de la Convention. Justement, je me demande si Estier n'était pas venu à l'époque. Enfin, il y avait beaucoup de monde qui venait, plus des débats qui étaient animés tous les jours par des militants de gauche ou d'extrême gauche, tous ceux qui étaient présents à ce moment-là. Je crois que ça donnait une vie absolument bouillonnement intellectuel très important.
Marie-Claude Rousseau.
Moi, je vais vous dire que j'ai même animé un débat sur l'éducation avec un inspecteur primaire de l'éducation nationale qui s'appelait Monsieur Picard et qui était venu débattre avec nous sur la question de l'école, quoi. Alors, c'était en mai. Quand on s'est retrouvé en septembre, c'était moins bien, mais...
Alors, donc... Est-ce qu'on pourrait faire le tour un petit peu des tendances politiques qui étaient présentes dans ce mouvement étudiant et enfin dans cette jeunesse, disons, Mancelle, et ce qu'il représentait. Alors, François Pley, vous étiez au Parti communiste. Le Parti communiste était la force politique majeure, en fait, à cette époque-là, sur Le Mans. Les jeunes communistes, les étudiants communistes, ça représentait quelque chose d'important ?
Ah oui, je crois qu'on a été à un moment donné assez nombreux, puisque je m'occupais de l'UEC, vu que j'avais un âge un peu intermédiaire entre celui d'un universitaire lambda.
Vous aviez 29 ans à l'époque,
quelque ça chose comme ça, ouais. Oui. Et donc, en plus, j'avais évidemment un très très bon contact avec des, par affectivité, je dirais, avec les objectifs qui étaient avancés, qui étaient des objectifs. Je crois qu'on n'en a pas encore parlé, mais je ne sais pas si Marie-Claude me contredira. Et il me semble qu'il y a eu au Mans, comme il y a eu à Nanterre, une revendication très forte de droit à la mixité dans les cités universitaires, et qui a été peut-être, je ne dis pas que ça a été l'essentiel, mais je pense que ça heurtait tellement cette séparation stupide que ça a créé des irritations. Ça a été déclencheur, hein, je crois. Ouais. Alors, effectivement... Moi, j'ai surtout été avec les étudiants communistes et je dois dire que on avait des moments un peu rudes, des confrontations difficiles, dont j'ai gardé un excellent souvenir par ailleurs avec un certain nombre de gens, je dirais, avec qui dont les routes sont, je ne sais pas si elles ont convergé, mais en tout cas elles sont restées parallèles, contrairement à d'autres qui se retrouvent inspecteurs généraux dans les ministères. Je sais qu'on est un certain nombre à avoir gardé nos envies, nos idéaux qui nous rapprochaient, qui nous confrontaient parfois à l'époque. Alors bon, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que il y a eu aussi des éléments de débat. Moi, j'étais évidemment à la GEM le soir après la journée. Et puis dans la journée, il y avait quand même beaucoup de débats dans les amphis. Et ça, c'était pour le souvenir que j'en ai, des moments très importants de remise en cause d'une autre contrainte insupportable. Pour les enseignants, c'était nous évidemment qui la ressentions le plus, mais les étudiants, je crois, n'étaient pas étrangers. Je veux dire, de la structuration de l'université à l'époque, où les mandarins étaient vraiment des gens d'un paternalisme qu'on n'imagine plus, qu'on ne peut plus, auquel on ne peut plus penser.
Les mandarins, pour les plus jeunes auditeurs, on peut expliquer, ce sont les caciques, c'est pas mieux d'ailleurs le mot cacique.
C'est professeurs d'université.
Les grands professeurs d'université.
C'est ça, oui.
C'est les professeurs d'université.
Qui faisaient 3 heures de cours en amphi de 600, et puis après, ils rentraient chez eux.
Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui faisaient de la recherche, je ne sais pas, systématiquement méchant avec mes collègues.
Mais l'âge que les miens, ils avaient.
Mais c'est vrai que, moi, je me rappelle avoir pondu un certain nombre de tracts sur les possibilités de développement, notamment de l'université du Maine, du Mans, parce qu'on n'était pas encore université, il y avait un assemblage de collèges universitaires. Nous sommes devenus université en 77. Donc il a fallu attendre les retombées. Mais je sais qu'on a beaucoup travaillé sur que peut faire l'université du Mans dans un contexte comme le sien, dans quelle direction faut-il la développer, on a passé beaucoup de temps là-dessus.
Pour revenir aux communistes et pour faire le lien avec nos autres intervenants, on sait que les relations entre le Parti communiste et, par exemple, les trotskistes ou les maoïstes ont toujours été très, très difficiles et que beaucoup sont sortis, en fait, de force, pratiquement, du Parti communiste pour aller former de nouveaux groupes de jeunesse. Ça a été en 66 le cas des trotskistes avec la JCR et le cas de l'UJCML, donc, pour les Mao. Michel Magloff, à quelle période vous avez rejoint la mouvance maoïste ? Et pourquoi ?
La mouvance maoïste au Mans, elle n'avait pas de racines du tout. Et c'est par l'intermédiaire justement de gens comme ceux dont les compagnons de Marie-Claude Rousseau à Nanterre qui sont venus au Mans, des gens comme moi qui sont venus de Rennes, etc., qui avions eu une imprégnation par le JCML, que nous avons commencé à créer un mouvement maoïste. En fait, 68 pour nous, bon, indépendamment de tous les débats, et je suis d'accord avec François Plé sur la mixité, et je lui rappelle d'ailleurs que le tube de l'année 67, c'était Antoine qui chantait les élucubrations, comment enrichir le pays en mettant la pilule en vente dans les monoprix. Et il y a eu au début beaucoup de choses comme ça dans les étudiants qui n'étaient pas forcément très politisés, sauf évidemment des noyaux un peu plus durs. Évidemment, je dis une bêtise quand il n'y avait pas de noyaux, car il y avait des trotskistes au Mans. Mmh. Les trotskistes étaient organisés. Oui. C'est pas les mêmes que ceux qu'a vécu Marie-Claude Rousseau, c'était ceux d'Arlette Laguiller.
Hein,
ouais. Bon, mais c'était pareil, c'est-à-dire qu'en 68, tout ça se créait, se structurait. Je voudrais dire seulement un mot sur les Mao, qui n'est pas forcément d'ailleurs valable pour moi, c'est que quand on dit les Mao, c'est tout et n'importe quoi, c'est l'auberge espagnole. Parce que nous, par exemple, les Mao du Mans, ce que nous avons créé, c'était un nouveau parti qui se voulait marxiste-léniniste et qui était né en opposition au PC de l'Union soviétique quand il y a eu la rupture entre la Chine et l'Union soviétique. Ouais. Et on était très virulents contre le PC, on les appelait d'ailleurs non pas le PC mais les révisionnistes.
Les révisos, oui.
Ça c'était les Mao du Mans, ça a été les Mao du Mans, il n'y en a pas eu d'autres, et après bon, on s'est développé, on s'est structuré, on avait donc comme objectif de construire un parti maoïste. Mais les Mao dont on parle le plus souvent, tout à l'heure vous parliez de Gessmar, le SNESUP, les Mao de Paris, alors il y a eu les Mao Spontex, les Mao ceci, Mao cela, les Mao qui étaient d'ailleurs autour de Serge Julie et de Jean-Paul Sartre et tout ça, c'était des Mao qui...
La gauche prolétarienne.
Pour moi qui suis parti travailler en Chine en 72 et qui suis resté 5 ans, je peux vous dire que ça n'avait rien à voir avec la Chine. Nous, pas tellement non plus d'ailleurs, mais enfin on était quand même un peu plus près. Mais alors, les Mao de Paris, enfin de Paris et de la France, qui disaient Fauchon chez Fauchon, etc., ceux-là, évidemment, ils n'auraient pas été les bienvenus, en tout cas les bienvenus entre guillemets, dans la Chine qui était, bon, les récents événements on nous le rappelle, un pays très stalinien, très organisé, très répressif, et là, tout ce qu'on a raconté sur la spontanéité du maoïsme, hein, on parle, on est libre, on y va, on baise où on veut, etc., je peux vous assurer que c'est pas la Chine, hein. Et c'est pas Mao en plus. Enfin, pour baisser où il veut, c'était Mao, mais c'est pas les Chinois.
Ok, on va revenir tout à l'heure vers Philippe Guittet, mais je voudrais qu'on vienne maintenant tout de suite vers Marie-Claude Rousseau, puisqu'on a évoqué justement les courants trotskistes. Hein. Alors, alors justement, la difficulté du trotskisme, c'est la multiplicité des courants. La JCR, donc, est un courant particulier.
Alors moi, c'est pas de mauvaise foi, mais alors je me souviens que de la JCR.
Ah, il y avait l'affaire, sinon, à côté.
Hein. Bah oui, c'est ça, mais alors... Oui, c'est ça, tu peux en parler aussi. Moi, je me souviens que de la JCR, parce qu'en fait, ce qui s'est trouvé au Mans, et c'est aussi pour ça que je suis restée, c'est que j'ai retrouvé 3 jeunes travailleurs que j'avais rencontrés à la JC en 63-64, et qui en fait étaient devenus JCR entre-temps. Donc, eux, je les connaissais bien, quoi. Ça avait été des copains de jeunesse, si on peut dire. Donc, je me sentais proche. Alors, est-ce que c'est parce que j'avais été, justement, un peu à la JC, que j'avais une certaine formation, et puis que, voilà, j'ai évolué vers le trotskisme, je ne sais pas par quel biais, mais comme j'ai rencontré ces copains-là et que je militais déjà avec eux, je suis naturellement allée vers cette pente-là, quoi. Alors, la JCR à la GEM était importante, quand même. Il y avait un assez gros groupe. Je me souviens pas du tout des autres organisations. Peut-être que Philippe se souvient mieux que moi parce que comme j'étais pas au Mans en fait étudiant, donc je connaissais pas tellement
Il y avait l'affaire effectivement qui était très active, hein, qui en gros est. Si j'espère pas dire de bêtises, grosso modo Laguiller un peu, hein, le.
Oui c'est ça. Bon, Laguiller serait l'émancipé.
Ah oui, à l'époque, il y avait déjà
les Lambertistes, les franquistes, ouais, etc. Voilà, ça, pour
les Lambertistes. Pas les Lambertistes.
Pas les Lambertistes.
Non, mais ce qui est devenu le FUO dans la...
Oui, mais ça, c'est les Lambert.
Non, le FUO, ce sont les Lambert.
Alors, nous allons éviter de rentrer
dans les détails.
Dans la finesse d'analyse.
C'était voix ouvrière.
Décorant Trotsky, je voudrais juste, maintenant que l'on revienne vers Philippe Guittet.
Oui, non, mais je connais bien quand même, parce qu'il y avait un mouvement. C'était quand même, la JCR a été très implantée. Moi, j'avais des amis qui étaient... D'ailleurs, il y avait un noyau qui venait de ma ville natale, de Jean le Retrou.
Exact.
En particulier. Tout ce groupe au départ était quand même déjà implanté. Moi, je n'étais pas à l'époque, puisque je vous dis, je n'étais pas à la JCR, mais j'étais au Comité Vietnam National. Donc, il y avait un groupe étudiant. Il y avait un groupe étudiant important qui était à la JCR, ou qui était proche, ou qui était dans la mouvance par l'intermédiaire du Comité Vietnam National. Il y avait aussi, bien évidemment, des étudiants du PSU dans l'UNEF, hein, comme Legrain, comme un certain nombre d'autres. Je n'ai pas souvenir, moi, d'une implantation forte du mouvement lambertiste à l'époque sur le Mans. Hein. Je n'ai pas ce souvenir-là. Il y avait en effet un mouvement de lutte ouvrière, mais qui n'était pas implanté dans le mouvement étudiant.
Puisqu'on évoque les différentes tendances à l'époque, juste pour dire que ce n'était pas si simple, quand même, on pourrait évoquer la personnalité de François Marzorati, qui était à l'époque le président de l'AGEM. Et paraît-il qu'un jour, on a retrouvé à l'AGEM des choses affichées et un slogan qui était « Bientôt le vent soufflera de l'Est pour balayer les Marzorati et Simon ». Tout ça pour dire que finalement, c'était pas le grand amour. Alors, est-ce que c'était facile d'être un socialiste réformiste modéré à cette époque-là, Philippe Guittet?
C'était assez étonnant parce que j'étais dans la même organisation que François Marzorati.
Donc vous auriez
des élus, mais il y avait Monsieur Fouet qui avait été élu comme député en 67. J'étais dans cette organisation d'époque. Alors ce qui était très amusant, c'est qu'on s'était présenté sur deux listes différentes à la corpo de droit sciences éco et que j'étais élu contre lui. C'est-à-dire qu'ils étaient majoritaires parce que c'était droit sciences éco qui était quand même plutôt marqué à droite. Donc il était allié avec des gens un peu plus marqués à droite. Et moi, j'étais avec des gens qui étaient plus à gauche ou à l'extrême gauche. Ce qui donnait quand même un aspect étonnant quand on se rencontrait dans des réunions politique de la Convention des institutions républicaines.
Alors, on a fait un peu le tour des organisations politiques qui étaient présentes sur ce secteur Manceau.
Vous en avez oublié une quand même, excusez-moi d'intervenir.
Je vous en prie, oui.
Le PSU.
Ah, bien sûr.
Le PSU était une organisation au Mans assez importante et intéressante. Ouais. Je ne peux pas l'oublier parce que c'est l'avocat du PSU qui m'a sorti de prison, qui s'appelait Maître Leclerc. Et comme on a été faire plusieurs séjours en prison, c'était Maître Leclerc qui m'est sorti. Et à chaque fois qu'il y avait des meetings un peu unitaires de l'extrême gauche, on va dire comme ça, puisque de toute façon la gauche c'était plutôt le PC et on s'aimait pas beaucoup, c'est un euphémisme. Hein. Donc on se retrouvait autour du PSU parce que c'était les seuls qui avaient un semblant de respectabilité, on faisait des meetings à la maison sociale, etc. Rocard est venu, etc. Et donc le PSU a joué quand même, me semble-t-il, mais il n'est pas là, c'est Pesrit qui aurait pu vous le dire, parce que lui il était engagé à ce moment-là. C'était un parti qui comptait le PSU. À l'extrême gauche.
Michel Rosier.
Oui, c'est exact. Et ces organisations, c'est-à-dire la JCR, le PSU, se sont trouvées dans le Front uni contre la répression au moment de l'arrestation d'Alain Filou et de deux autres.
Des
Mao. C'est vers 71.
Bernier,
c'est 71-72.
Alors, pour en faire un tour des composantes politiques présentes, est-ce que vous vous souvenez de la présence, en fait, d'une opposition d'extrême droite sur le Mans? Est-ce qu'il y a eu des règlement de compte entre droite et extrême droite et extrême gauche.
On était un peu inquiets sur la fac de droit quand même, parce qu'il y avait des gens qui, en effet, n'appréciaient pas du tout ce mouvement. Et il y a eu des périodes assez violentes hein, quand même sur le campus de la fac de droit. Ça n'était pas simple. Je me souviens de ce campus, ça n'était pas simple. Je me souviens plus des noms forcément des gens qui étaient à l'époque militants d'extrême droite. J'ai une très mauvaise mémoire des noms. Mais c'était
les arrangements de l'époque, on le rappelle.
ils étaient très remontés et très mobilisés contre le mouvement de 68, bien évidemment. Alors qu'on intervenait, nous, dans les amphis, que les étudiants s'étaient quand même mis massivement en grève, y compris sur la fac de droit sciences éco. Donc c'était quand même quelque chose qui pour eux, était quelque chose qui n'était pas compréhensible.
Moi, j'ai souvenir d'un cassage de gueule avec l'extrême droite, auquel je participais d'ailleurs, quand Tixier Vaillancourt s'est présenté aux élections. et on, dans les collages d'affiches traditionnelles, il y a eu un cassage de gueule qui on a quand même étalé trois de notre côté. Et il y avait dans les leaders de l'extrême droite au Mans, hein, il était pas là ou il venait pas là, le navigateur, la grande gueule, Olivier de Kersauzon.
Et toute la famille même.
Et toute la famille. Et donc l'extrême droite, je peux vous assurer que elle existait, on l'a palpée. Hein.
Oui, juste rappeler, puisqu'on parlait de François Marzorati tout à l'heure, que puisque vous parlez de 65, on peut parler de 74, où François Marzorati sera victime également d'une agression très très violente sur la place de la République, en plein collage d'affiches entre les deux tours des élections.
Par des nervis ex-gaullistes.
Par le sac.
Par le sac, oui.
Par le sac. Donc tout ça pour dire...
Et l'UNI qui a été très implanté à un moment sur le Mans. Hein.
Oui, question à Philippe Dittet et peut-être à Michel Magloff, c'est-à-dire que la libération, entre guillemets, de l'UNEF le 29 mai, qui est faite, je crois, par des gens d'extrême droite.
Libération de la GEM.
De la GEM, pardon. Ouais. L'évacuation autoritaire de la GEM, ce sont des gens d'extrême droite.
Oui. Mais bon, c'est vrai qu'on était à la fin. Bon. Ouais. C'est vrai,
on était plus beaucoup. On n'était plus beaucoup dedans, mais en plus, ils ont non seulement... ils menaçaient d'attaquer, ils faisaient des tournées, des fois, c'est pour ça qu'on occupait les toits, d'ailleurs. Mais la question, c'est que je crois quand ils sont venus pour vider la GEM, on n'y était plus, parce qu'on avait été prévenus. En revanche, ils ont vidé tout le matériel, c'est-à-dire qu'ils ont emporté tout et jeté dans la Seine. Hein. Les machines à écrire... Dans la Sarthe, pardon. Dans la Sarthe. Ils ont emmené les machines à écrire, les vêtements, enfin bref, quand on est revenu à la GEM, on n'a rien retrouvé.
Alors, je vous propose de souffler quelques secondes avec quelques notes de musique. Et tout à l'heure, nous reviendrons sur la manifestation du 13 mai et puis sur la liaison entre les étudiants et les ouvriers. Spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. On vous aurait épargné François Play reprenant les paroles de Suzanne qui lui rappelle cette saison-là. Suzanne Léonard Cohen, on était coupé en micro, mais nous sommes toujours avec Philippe Guittet, Michel Magloff, François Play, Marie-Claude Rousseau, Michel Rosier, Franck Pouille autour de cette table ici pour évoquer mai 68, mai 2008, l'histoire ordinaire d'un printemps en Sarthe avec la radio qui raconte et qui va raconter maintenant la manif du 13 mai. Alors, que s'est-il passé ce fameux 13 mai ? Qui veut nous raconter ces événements ? Qui y était d'abord au 13 mai ?
Moi, j'ai participé à la manifestation.
Alors, moi, c'est Philippe Guittet ?
Oui, j'ai participé à la manifestation du 13 mai. Mais c'est vrai qu'elle avait pris une autre nature, vu l'importance de ce qu'était le mouvement ouvrier à l'époque, sur la Sarthe, de la CGT, de la CFDT sartoise. C'était, bien évidemment, on était dans une autre nature de mouvement. Et c'est vrai que le mouvement étudiant, qui était quand même important, mais quand même pas le plus important, était quand même, même s'il y a eu une intervention, je me souviens de Jean-Louis Sauvage, à la fin de cette manifestation qui est intervenue au nom de l'UNEF à l'époque, c'était quand même, c'est vrai que les organisations ouvrières avaient pris là le relais très clairement du mouvement étudiant ce jour-là.
Exactement.
Michel Magloff.
Oui, c'est-à-dire que effectivement, Le Mans, on va en parler puisque vous dites, mais c'est lié la liaison avec le mouvement ouvrier. Le Mans est une grande ville ouvrière, hein, et notamment la forteresse ouvrière, c'est Renault du Mans. Et cette forteresse ouvrière, d'ailleurs, va être très particulière dans le mouvement ouvrier de 68, car c'est une forteresse ouvrière où les ouvriers sont d'anciens paysans, petits paysans, paysans pauvres, etc., qui ont quitté la ferme et qui ont laissé leurs femmes ou leurs enfants à la ferme, ce qui fait qu'ils peuvent se nourrir, ils peuvent se ravitailler, etc. Bon. Alors évidemment, nous, on est un peu comme des sensus, comme des opportunistes. Moi, je vais dire des choses qui ne vont pas faire plaisir à François Play, mais je ne suis que témoin de cette époque-là, hein, je ne parle pas aujourd'hui. on s'est fait casser la gueule par les mecs du PC, mais quelque chose de bien pendant je ne sais combien de temps, c'est-à-dire que pour le PC au Mans, qui était vraiment costaud, hein, le PC, la CGT, c'était vraiment les rois. Les manifs étaient encadrés par le service d'ordre de la CGT, dont je pourrais témoigner avec trois points de suture. C'était vraiment la protection totale et absolue. On a des camarades qui ont fini dans l'Uine à Alonne, etc. Enfin, ça a été très violent, ça a été plus violent que ce que vous évoquiez tout à l'heure avec l'extrême droite, car pour le PC, il n'était pas question que ces gauchistes venus d'on ne sait où troublent l'ordre et troublent la paix. Ils menaient leur avec détermination leur combat d'ouvriers, et il n'était pas question, c'est vrai qu'on était tous plus ou moins, je veux dire à 90%, on était tous des étudiants, d'anciens étudiants, il n'était pas question qu'on aille troubler leur ordre établi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un certain nombre de nos camarades, notamment un que citait tout à l'heure Marie-Claude, c'était un peu un mot d'ordre dans le mouvement maoïste, puisqu'on n'arrive pas à avoir des ouvriers avec nous, un certain nombre de nos camarades sont allés travailler en usine.
Vous avez fait de l'entrisme vous-même ?
Moi non. Ça s'appelait l'établissement.
Ouais.
Et tout à l'heure, on parlait de Filliou. Ben, Filliou est parti travailler comme ouvrier, je crois me souvenir que c'était à la Ferté-Bernard. Bon. Mmh. Et donc, en fait, on se disait, ben, cette fois, on a des ouvriers, sauf que c'était des faux ouvriers. Puis ça a été vrai au niveau national aussi. Il y a eu pas mal de gens qui ont fait ça, notamment l'actuelle femme d'Alain Gesmard, Vieille-Urca. Et il y a eu pas mal de gens qui ont fait ça pour essayer d'avoir une petite implantation dans le monde ouvrier, parce qu'on était marginalisés. Et de toute façon, avec le PC, il n'était pas question de faire un pas en avant, ou alors il fallait le faire subrepticement, par relation, par truc, etc. Mais il n'était pas question de se développer. Nous, on allait, par exemple, notre action favorite, c'était d'aller à 4h du matin aux portes des usines Renault distribuer des tracts.
Bien sûr.
Je veux dire qu'on n'en est pas toujours revenu intact. Hein.
On va reposer la même question pour les courants trotskistes. Marie-Claude Rousseau, c'était si difficile les relations avec le PC et avec les Mao? C'était facile les relations?
C'est-à-dire que moi j'avais des relations familiales avec les maoïstes, puisque ma soeur était maoïste, mon beau-frère était maoïste, et donc j'avais pas des relations politiques excellentes, hein. C'est-à-dire qu'elles étaient même assez mauvaises, on discutait même pas politique parce que c'était pas la peine, sauf que lorsqu'ils ont été emprisonnés longuement, on a avec le PSU, Pézril, mais surtout comment il s'appelait, Jacquier, construit le Secours Rouge, et j'ai même été à des réunions très clandestines avec des maoïstes tourangeaux et tout ça,
exact,
pour défendre les camarades. Et donc il y avait donc une relation quand même de respect politique, disons, mais une très forte opposition politique qui n'allait pas jusqu'aux mains, je crois pas, entre nous, entre Mao et Trotsky, je crois pas que c'est jamais arrivé au Mans. Mais là, avec le PC, c'était hyper dur. Quoi.
Vous êtes allé chez Renault?
Ah oui, moi, on y allait régulièrement chez Renault. Je disais, on distribuait des tracts sur les 35 heures à l'époque. On était fer de lance.
Et ça, c'est après 68.
On allait, c'était en 70, on allait chez Renault et on se faisait recevoir comme les maoïstes. Ou comme.
Alors, François Play, vous comprenez bien qu'on va vous donner la parole. Hein, parce que 40 ans plus tard, le PC n'est plus la même force, évidemment, aujourd'hui, ça a changé. À l'époque, il était hégémonique et il voulait le rester. Mais est-ce que vous souvenez de ces relations si difficiles, si raides, si dures pour garder cette hégémonie?
Moi, je m'en rappelle assez bien parce que je me trouvais un peu en porte-à-faux par rapport à tout le monde. C'est-à-dire que je n'étais pas d'accord, notamment avec, je le dis, je l'avais dit à l'époque, hein, avec, contre les violences, contre. C'est pas admissible, c'était pas. Ou alors c'était une preuve de faiblesse et non pas de force. Et je l'avais dit notamment à Robert Jarry, qui n'était pas forcément en désaccord avec moi. Mais alors il faut savoir qu'en même temps, il y avait un mouvement de la base extrêmement fort qui poussait, et puis qu'à certains moments, vous pouvez bien vous mettre en travers d'un torrent qui avance, vous ne pesez pas grand-chose. Alors, ceci étant, c'est vrai aussi qu'il y avait une certaine exaspération ou un manque d'ouverture, on peut le dire, dans un sens ou dans l'autre, de la part des militants ouvriers qui n'appréciaient pas de voir les jeunes étudiants, donc les fils de bourges locaux, départementaux, etc., venir leur expliquer comment il convenait de mener le mouvement. Alors, je dis ça avec des guillemets un peu partout, parce que effectivement,
non mais c'était ça.
Surtout 40 ans après, on ne sait pas qui avait tort, qui avait raison, et on peut dire l'évolution actuelle ne donne pas vraiment de pistes enthousiasmantes en tout cas.
C'est surtout après 68 hein, que les choses se sont tendues. Parce que, en fait, lors de la manifestation, c'est plus une reprise. Il n'y a pas eu de violence contre les étudiants, bien évidemment, puisque le mouvement étudiant était parti en première ligne. On a eu l'impression d'une espèce de mouvement de masse et d'une reprise en main, forcément, par la force et par le nombre de la CGT, en particulier à l'époque, qui a quand même couvert un peu ce qu'était le mouvement étudiant du début du mois de mai, si vous voulez. Mais je pense que c'était assez simple, parce qu'en effet, les forces ouvrières, c'était quelque chose. Les rapports de force étaient clairement établis.
Bon. Et alors, vous, les étudiants qui étiez ici sur Le Mans, est-ce que pour vous, il s'agissait de faire changer la société ou est-ce que vous étiez, pour certains, sur une vraie logique révolutionnaire?
Je ne sais pas, c'est compliqué. Il y avait des étudiants qui étaient sur une vraie logique révolutionnaire. Il y avait des militants JCR qui étaient à l'époque sur une vraie logique révolutionnaire. Pour d'autres, c'était plus compliqué.
Vous confirmez, Marie Pedrosso ?
Oui, au niveau de la théorie, oui. Mais après, vous savez, les révolutions, on sait qu'on a fait une révolution quand elle est finie, hein, pas quand on l'a fait. Hein.
Ouais, on vous laisse continuer.
Là, on a su qu'on l'avait pas faite.
Oui, c'est sûr qu'on se la jouait révolutionnaire, peut-être encore plus les Mao qui étaient un peu pseudo soutenus par la Chine, parce que, enfin, en plus, moi, j'avais le rôle dans le mouvement Mao d'être le Monsieur Chine du mouvement Mao. J'ai créé les amitiés franco-chinoises, et puis, vous voyez, j'ai emmené, ça avait été connu à l'époque, paysan, parce qu'on avait un mouvement paysan avec nous dans l'Ouest, notamment à travers l'organisation paysanne qui s'appelait le CDJA. Donc emmené un paysan qui s'appelle toujours d'ailleurs Michel Papin.
Que nous recevrons dans nos émissions.
D'accord, et Michel Papin est venu avec moi en Chine découvrir la Chine maoïste. Puis après, moi je suis parti travailler et en fait, j'étais un peu le monsieur Mao des maoïstes, mais on se la pétait grave parce que moi en particulier, je sais pas, un lieu pour faire une autocritique, parce que mon autocritique, je l'ai fait en arrêtant de toucher à jamais à la politique, mais je suis revenu en disant, faut apprendre le petit livre rouge par cœur, hein. Et puis notamment, on avait une phrase sublime, c'était le pouvoir est au bout du fusil. Donc c'est pour ça que les flics nous ont pas mal traqués, parce qu'ils avaient peur que cette logique guerrière amène des choses qu'on a vues d'ailleurs après, aussi regrettables que Action Directe, etc., hein. Donc on avait une logique révolutionnaire, mais complètement à côté de nos pompes, hein, c'est clair, mais c'était ça. Hein.
Du côté de la JCR et des mouvements trotskistes, est-ce qu'on a considéré qu'à un moment la situation était révolutionnaire
Non, je crois que la question, c'est qu'il y a la distance entre la théorie, c'est-à-dire la théorie de la JCR, c'est effectivement une théorie disant il faut faire la révolution, c'est la seule solution. Je crois d'ailleurs que c'est, pour moi, c'est toujours vrai. Et mais bien que je ne sois plus militante, sur le fait là de ce qui se passait, je crois qu'on pensait que le mouvement social était tellement, on était devant un mouvement social tellement énorme qu'il pouvait effectivement y avoir des issues qu'on pouvait pas prévoir. C'est-à-dire que ça pouvait aussi bien faire ce que ça a fait, c'est-à-dire retomber à droite, que effectivement être porté par la gauche ou porté par la classe ouvrière. De façon, on savait en tout cas que c'était pas les étudiants qui allaient faire la révolution, même avec un fusil, hein, ça c'est sûr. Et donc on n'avait pas, disons, de ligne affirmée sur le résultat que pouvait donner cet énorme mouvement social. Il pouvait y avoir plusieurs issues.
Le 13 mai 68, ça a marqué les étudiants quand même, même si après on s'est dit c'est la force du Parti communiste, de la CGT qui a repris la main. Pour à l'époque, le 13 mai 68, pour les étudiants de l'UNEF ou d'AJCR ou d'autres, c'était considéré quand même que cette alliance étudiants-ouvriers était en train de se constituer à un moment donné. Hein,
oui. Hein.
C'était la manif, mais le PC était farouchement contre. Hein.
Oui, d'accord.
personne en doute, mais c'est vrai qu'il y avait cette illusion de cette force commune qui pouvait renverser un certain nombre de choses quand même.
Alors justement, je voudrais que l'on puisse conclure parce qu'on arrive bientôt au terme des 52 minutes. C'est fou ce que ça va vite, une émission de radio. En vous demandant à chacun de dire en quoi ça a changé peut-être l'université, la jeunesse, et peut-être principalement les rapports de force entre les organisations politiques, ce qu'on est un petit peu en train d'évoquer actuellement. Sur ces trois points, je propose qu'on commence par Philippe Guittet.
Ce que ça a changé quand même, c'est que ça a changé profondément la société. Je pense 68, c'était une société totalement bloquée, je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Après, c'était quand même les mouvements féministes, ça a été beaucoup de choses qui ont évolué, et aujourd'hui on ne peut pas se rendre compte de ce que c'est, mais après il y a eu les radios libres, il y a eu tout un tas de choses qui se sont développées. On était dans un monde totalement transformé après 68, et peut-être comme dit Cohn-Bendit, c'est plus le problème aujourd'hui, il y a d'autres problèmes qui se posent, mais à l'époque c'est vrai que c'est surtout ça qui a transformé les choses. Je pense qu'il y avait des divergences en cette transformation des choses et du monde, et puis peut-être un mouvement auquel j'ai participé ensuite, qui était un mouvement proche du trotskisme ou du mouvement et qui s'est fait beaucoup d'illusions sur le mode de la révolution. Mais bon, là-dessus, je pense que c'est c'était deux choses différentes, si vous voulez, à mon avis.
Michel Magloff, en deux mots.
Oui, deux mots, c'est difficile. Puisque vous me demandez de faire la liaison avec entre aujourd'hui et hier, moi je sens aucune nostalgie et beaucoup d'erreurs pour moi de tout ça. Maintenant, il faut comme vient de le dire M. Guittet, il faut quand même prendre en compte quand même toutes les modifications qui ont eu lieu à partir de 68 dans les phénomènes sociétaux. Et c'est pour ça que j'étais absolument choqué, excusez-moi de le dire, quand j'ai entendu Sarkozy monter à la tribune en disant qu'il faut absolument liquider 68 et tout, et reprenant son thème très cher à lui mais aussi à Benoît XVI, de lutter pour l'absolutisme et contre le relativisme. Et je pense que c'est bien quand même qu'on évoque 68, qu'on dise il s'est passé des choses qui ont changé la façon de parler, la façon de se comporter dans la société. C'est pas pour autant qu'il faut dire les 68ards c'était des cyniques, c'était des amoraux, et puis j'ai aussi entendu des trucs, tu sais, ah, les 68ards maintenant ils sont tous PDG, ils font plein de fric, etc. C'est faux, moi j'en ai jamais rencontré, il y en a peut-être un ou deux qui a échappé aux mailles du filet, et ils ont fait une vie comme les uns et les autres, et ils ont continué à se comporter normalement, et il n'y avait pas dans le mouvement de 68 d'amoralisme ou de cynisme, ni rien, au contraire, il y avait l'idée, enfin, en tout cas pour nous, mais je pense que c'était vrai aussi pour les autres, d'avoir un monde meilleur, un monde où on serait plus dans le système d'exploitation de l'homme par l'homme, etc. Bon, ces idées-là, je veux dire, aujourd'hui, on a 7 millions de personnes en France en dessous du seuil de pauvreté. On ne peut pas dire quand même que le problème soit terminé, qu'il ait été résolu. Alors peut-être Marie-Claude a raison de parler encore de révolution, moi je parlerai au moins d'évolution, mais de toute façon, je pense que 68 a apporté sa pierre. Et puis c'est tout, on arrête là, il n'y a pas de modèle, il n'y a rien d'autre à faire,
alors, sûrement. On va demander maintenant à François Play son sentiment sur ce point.
Moi je dirais plus qu'apporter une pierre, je dirais qu'il y avait quelque chose qui a éclaté, qui a germé, qui a donné naissance à quelque chose à des modes de relations sociales qu'on n'a pas pu remettre en cause malgré les envies qui peuvent en avoir certains aujourd'hui. Alors qu'il y ait eu en germe dans tout ce qui s'est passé, un certain nombre d'erreurs, un certain nombre d'outrances, mais je veux dire, c'est la règle de l'histoire. Alors, on va toujours un peu plus loin, forcément, quand on est dans un mouvement, puis après ça, les choses reprennent leur place. Mais je dois dire que ça, quand même, a été quelque chose qui a changé fondamentalement les choses. Pour les gens de ma génération, puisque j'avais donc 30 ans à l'époque, entre ce que j'avais pu connaître pendant mes 30 premières années, mettons entre 20 et 30, et puis ce que j'ai connu pendant les 40 années suivantes, il y a vraiment eu une évolution.
Ça a changé la vie.
Complètement.
Marie-Claude Rousseau.
Oui, je crois qu'un mouvement social comme ça, de cette ampleur-là, non seulement en France, mais au niveau international, ça ne peut que marquer l'histoire, quoi. Et aujourd'hui encore dans les luttes, les gens qui luttent, les occupations d'usines, les luttes jeunes, elles font référence à cette date-là, pas parce que c'était les petites fleurs, etc. C'est parce que c'était un mouvement social réel ancré. Et je pense que la situation internationale qui a suivi, avec tout ce qui est arrivé ensuite, montre que 68 a été une étape non seulement pour nous personnellement, individuellement, parce que moi, ça a été très important, mais pour aussi la situation sociale et politique du monde entier.
Voilà, ce sera le dernier mot de cette émission mai 68, mai 2008, l'histoire ordinaire d'un printemps en Sarthe avec la radio qui raconte. Aujourd'hui, c'était l'université, les étudiants et les nouveaux courants politiques donc dans cette époque. Et nous recevions Marie-Claude Rousseau, Philippe Guittet, François Play, Michel Magloff, avec la participation de Michel Rosier, Franck Pohu et à la technique, Noël Chevalier. Merci de votre attention. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.